Washington, la voix de l'Amérique, il est 18h30, temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du 6 août 2014, en direct du Studio 13, chez Robin Dorsil et Camille Grosdidier. Bonsoir Camille.
Bonsoir, chérubin.
Au sommaire ce soir, sommet États-Unis-Afrique, Barack Obama s'entretient avec les chefs d'État du continent.
À suivre le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Pinault. Et puis en Centrafrique, André Nzapayeke a rendu le tablier.
On entendra le premier ministre, plutôt l'ex-premier ministre centrafricain. Nigeria, une deuxième personne meurt de l'Ebola.
Et c'est la trêve à Gaza, tandis qu'au Caire, les diplomates aident les belligérants à forger un consensus sur un cessez-le-feu durable.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal, on commence par le sommet États-Unis-Afrique.
Oui, le président Barack Obama devait s'entretenir avec plusieurs dirigeants du continent et nous avions sur place notre envoyé spécial, Nicolas Pinault.
On l'écoutera un peu plus tard. En République centrafricaine, le Premier ministre André Nzapayeke a officiellement remis aujourd'hui sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Entre-temps, un calme relatif s'est rétabli à Batangafo, dans le nord du pays, où des affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts.
Alors, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a tué une deuxième personne au Nigeria. Il s'agissait de l'infirmière qui avait soigné le malade arrivé du Libéria fin juillet. Et entre-temps, le Libéria et la Sierra Leone ont fait appel à leur armée pour tenter de contenir la propagation de la maladie. Il faut dire que les populations en désarroi s'en prennent au personnel médical ou encore aux patients. Et il devient urgent d'assurer le calme autour des installations sanitaires.
On va écouter Idriss Fall sur la démission du Premier ministre centrafricain André Nzapayeke.
Première session tout à l'heure pour parler de l'investissement dans le
futur. Plutôt Nicolas Pinault sur le sommet États-Unis-Afrique.
Avant le déjeuner présidentiel, ici au département d'État, tous les leaders se sont retrouvés pour la traditionnelle photo de famille. La principale réunion de la journée consacrée à la paix et à la stabilité du continent africain s'est achevée. Il a bien sûr été question de lutte contre les groupes terroristes comme Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique ou encore les Shabab somaliens. Les Africains souhaitent un renforcement de la coopération militaire avec Washington. En fin de journée, Barack Obama livrera son bilan du sommet au cours d'une conférence de presse. En parallèle, ce mercredi, Michelle Obama et les autres premières dames ont une rencontre au Kennedy Center sur la place de la femme en Afrique.
Vous l'avez peut-être noté, nous avons quelques difficultés techniques. Nous nous en excusons. République centrafricaine, Camille?
Oui, alors le Premier ministre André Nzapayeke, nous vous le disions tout à l'heure, a officiellement remis sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Le point avec Idriss Fall.
André Nzapayeke n'aura duré que 7 mois à la primature. Il a remis officiellement sa démission à la présidente de la transition pour, selon lui, donner plus de sens à la paix.
C'était utile qu'à travers ce geste, que nous donnions l'opportunité au président, justement, d'avoir les mains plus libres pour pouvoir intégrer tous ces éléments afin de nous faire évoluer rapidement. Et il fallait nécessairement passer par la démission. Vous savez que le poste de Premier ministre est inamovible.
Suite à sa démission, hommes politiques et membres de la société civile se sont prononcés contre la nomination d'un chef de gouvernement sur des bases confessionnelles ou d'appartenance à un groupe armé. À Batangafo, au nord de Bangui, un calme relatif règne au lendemain de violents combats qui ont encore opposé hier soir les forces internationales aux ex-Séléka. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes tuées, dont 2 soldats français. Par ailleurs, le numéro 2 de l'ex-coalition Séléka, le général Noureddine Adams, a suspendu Mohamed Moussa Dafan, second vice-président, et Mohamed Taïb, jusqu'à la tenue d'une nouvelle assemblée générale, motif évoqué, non-respect des consignes de la hiérarchie et haute trahison.
12 personnes ont été condamnées à mort mercredi en Égypte pour le meurtre d'un général de police atteint d'une balle il y a près d'un an, alors qu'il coordonnait un raid sur un bastion des frères musulmans. Sarah Diaby nous en dit plus.
Un tribunal du Caire a confirmé aujourd'hui la peine de mort prononcée en première instance en juin dernier contre 12 hommes accusés de la mort du général Nabil Farage, atteint d'une seule balle. C'était pendant la vague de protestations et de répression qui avait suivi le coup d'état militaire contre Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu d'Égypte après la chute de Hosni Moubarak en 2011. Les condamnés peuvent se pourvoir en cassation, 7 sont détenus, les 5 autres en fuite, 10 autres accusés ont écopé de la prison à vie. Le général Mor coordonnait en septembre 2013 une opération commando de la police et de l'armée à Kher Dassa, une ville de la banlieue du Caire, fief des frères musulmans.
Plus de 50 migrants ont été blessés lors d'affrontements entre groupes africains rivaux hier soir dans la zone portuaire de Calais en France, où leur nombre ne cesse de grossir. C'est ce qu'a affirmé la préfecture du Pas-de-Calais, Jacques Aristide.
Des demandeurs d'asile, des Soudanais et Érythréens en majorité, se livrent depuis plusieurs jours à une guerre de territoire, d'après les autorités françaises. La situation a dégénéré dans la soirée de mardi à l'heure de la distribution des repas. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les groupes qui se battaient. Le service d'aide médicale urgente et des sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour venir en aide aux 51 personnes blessées dans les bagarres, dont une gravement selon la préfecture. Des ONG affirment avoir noté un accroissement du nombre de migrants à Calais, principalement africains, en dépit des opérations de destruction des campements sauvages dans cette ville du nord de la France. Et d'ajouter que ces migrants sont désormais prêts à tout pour traverser la Manche afin d'entrer illégalement au Royaume-Uni, leur destination de rêve.
Les rebelles hutu-rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, continuent de semer la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré leur annonce de vouloir mettre fin à la lutte armée, a dénoncé la mission de l'ONU, la MONUSCO, citée par l'AFP. Les FDLR ont entamé le 30 mai un processus de reddition volontaire sous l'égide de la communauté internationale. Sur les 1500 à 2000 combattants présents en RDC, près de 200 ont déposé leurs armes dans les nord et sud Kivu, mais depuis le 9 juin, le processus est au point mort.
Selon le HCR, le rapatriement des ressortissants de la RDC qui avaient fui en 2009 au Congo voisin pour échapper à un conflit intercommunautaire est terminé. Fin 2009, de violents affrontements avaient opposé les communautés Munzaya et Anyele en Équateur et il y avait eu au moins 270 morts et plus de 140 000 personnes avaient fui au Congo voisin.
Le Soudan tiendra des élections générales en avril 2015. L'opposition, qui ne veut pas de vote imposé, a exprimé ses réserves. On ne sait pas si le président Omar Hassan el-Béchir, au pouvoir depuis 1989, briguera un nouveau mandat.
Le chef de la mission d'enquête judiciaire sur l'accident d'Air Algérie au Mali, le colonel Patrick Touron, a estimé mercredi qu'il y a une forte probabilité d'identifier toutes les victimes du crash grâce aux prélèvements retrouvés sur les lieux. L'avion d'Air Algérie qui reliait Ouagadougou à Alger s'est écrasé dans le nord du Mali. Au total, 116 personnes, dont 54 Français, sont décédées dans ce crash.
Au Niger, deux des trois responsables du principal parti d'opposition, le Mouvement National pour la Société de Développement, arrêtés en début de semaine, ont été remis en liberté. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources concordantes. Les trois avaient été arrêtés au lendemain de la tenue d'un conseil national du MNSD, samedi à Zender, dans le centre du Niger, selon le parti. Cette réunion avait été interdite par les autorités locales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Proche-Orient, eh bien, les armes se taisent à Gaza pour une deuxième journée consécutive. Pendant la trêve de 72 heures négociée par l'Égypte, les représentants du gouvernement israélien et du Hamas se retrouvent au Caire pour envisager un cessez-le-feu durable. Sur la BBC, le secrétaire d'État américain John Kerry a appelé les deux parties à faire des concessions. C'est la plus longue pause en un mois de combats qui ont fait 1 800 morts chez les Palestiniens, la plupart des civils, et 67 dans le camp israélien, dont 3 civils.
L'OTAN avertit que la Russie pourrait envoyer les troupes dans l'est de l'Ukraine sous le couvert d'une opération humanitaire ou de maintien de la paix. Michel Joseph.
La mise en garde a été lancée par la porte-parole de l'Alliance Atlantique, Ona Lungeshu. Pour rappel, l'OTAN avait signalé hier que Moscou avait augmenté de manière significative ces derniers jours, portant à 2000 environ le nombre de ses forces à la frontière avec l'Ukraine. Elles sont appuyées par beaucoup de chars, éléments d'infanterie, forces spéciales et avions de combat. De son côté, Tony Blinken, adjoint de la conseillère américaine en matière de sécurité nationale, avait déclaré fin juillet que la Russie avait recommencé à masser des troupes à la frontière, ce qui la mettrait en bonne position pour une potentielle soi-disant opération humanitaire ou de maintien de la paix en Ukraine. Et le premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré aujourd'hui que la menace d'une intervention directe russe est certainement plus importante qu'il y a encore quelques jours. Pour sa part, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a souligné aujourd'hui que les unités de maintien de la paix de l'armée russe se devraient d'être constamment prêtes pour le combat. Il a tenu ses propos en assistant à des exercices sur une base d'une de ses unités dans le sud de la Russie.
En Afghanistan, un policier a tué 7 de ses frères d'armes la nuit dernière dans le centre du pays. L'assaillant s'est enfui après l'incident survenu à Tarinkot, capitale de la province d'Uruzgan. Hier, à Kaboul, un homme en uniforme a tué un général américain et blessé au moins 15 autres militaires, dont un général de brigade allemand.
Une attaque de drone américain a fait au moins 5 morts dans le nord-ouest du Pakistan. Les victimes sont des militants présumés opérant dans le Waziristan Nord, près de la frontière avec l'Afghanistan. Le mois dernier, au moins 26 islamistes présumés ont été éliminés dans des frappes similaires. L'armée pakistanaise mène une offensive dans la région depuis le mois de juin.
Les autorités du Bangladesh ont déposé une plainte mercredi contre le capitaine d'un ferry qui a chaviré en début de semaine, alors que les secouristes ont mis fin à la recherche de plus de 125 passagers, toujours portés disparus 3 jours après la catastrophe. Environ 100 passagers ont survécu au naufrage.
Aujourd'hui ramène le 69e anniversaire de l'attaque nucléaire d'Hiroshima qui a fait environ 140 000 morts, suivi d'un autre bombardement à Nagasaki faisant 70 000 morts 3 jours après. Lors de la cérémonie de commémoration, le premier ministre japonais Shinzo Abe s'est engagé à plaider pour un monde sans armes nucléaires. Voilà pour le journal, il est 18h42 en temps universel, 14h42 ici à Washington. Chez Robin Dorsil et Camille Grosdidier en votre compagnie. Restez branchés pour la partie magazine de cette émission.
Un sommet sans précédent entre les États-Unis et une cinquantaine de dirigeants africains prend fin aujourd'hui ici à Washington. Il aura été question de gouvernance, sécurité, mais aussi et surtout de coopération économique. Le point avec Nicolas Pino.
Barack Obama et ses homologues ont d'abord eu un échange ce matin sur le futur du continent africain. Il faut dire qu'avec une croissance prévue de 5,4% cette année, l'Afrique fait mieux que la croissance mondiale et attise les convoitises. Hier, Barack Obama a déjà annoncé près de 33 milliards de dollars pour le continent sous forme d'aide publique ou d'investissement privé. M. Obama a néanmoins insisté devant les chefs d'État. Selon lui, la croissance ne fait pas tout. Ce matin, le président américain a rappelé que ce sommet historique de Washington devait aboutir à des actes concrets.
En résumé, nous ne sommes pas juste là pour parler. Nous sommes ici pour poser des actes, des actions concrètes pour construire le progrès de l'Afrique et forger de partenariats d'égal à égal. Des étapes tangibles pour apporter plus de prospérité, plus de sécurité, plus de justice à nos citoyens. Donc, mes chers leaders, merci beaucoup d'être ici.
Président en exercice de l'Union africaine, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a pris la parole au nom de ses pairs pour demander encore plus de soutien à Washington pour assurer la sécurité des Africains.
L'Afrique est confrontée à des défis majeurs en matière de paix et de sécurité. Les conflits armés, les guerres civiles, le terrorisme et les trafics illicites dont il se nourrit, tels que les crimes organisés, le trafic des espèces sauvages, la contrebande d'armes et de drogues. Pour y faire face, des progrès significatifs ont été enregistrés dans l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. La mobilisation des efforts de la communauté internationale est requise.
Une réunion à huis clos a ensuite eu lieu pour parler de la paix et de la stabilité en Afrique. Une dernière rencontre a eu lieu pour parler de la bonne gouvernance. Barack Obama aime à rappeler que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais surtout d'institutions fortes. En plein débat constitutionnel en RDC, au Burkina Faso ou au Burundi, nul doute que ces débats seront suivis. Barack Obama fera le bilan de ce sommet ce soir lors d'une conférence de presse. Nicolas Pineau, Washington, La Voix de l'Amérique.
En lieu et place de notre émission hebdomadaire du Dialogue des religions, nous vous proposons ce mercredi 6 août 2014 de nous dire ce que vous pensez du sommet États-Unis-Afrique qui se tient cette semaine à Washington entre le président Barack Obama et une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Nous vous invitons à nous appeler en direct au 01 202 619 31 40. Je répète, appelez-nous en direct au 01 202 619 31 40. À tout à l'heure, à partir de 19h05 TU.
En République centrafricaine, le Premier ministre a remis sa démission après 6 mois passés à la tête du gouvernement de transition. Félix Yepasis Zembrou a joint André Nzapayeke. Il précise les raisons de son départ de la primature.
Non, ce n'est pas véritablement une surprise. Vous savez, après un événement comme le Forum de Brazzaville, on va nécessairement vers une recomposition, une réorientation gouvernementale. Donc c'est un peu dans ce cadre que nous sommes arrivés à cette démission qui a été demandée expressement par Madame la Présidente de la République. Il faut dire que pour ne pas trop perturber la transition, nous on espérait pouvoir piloter le processus de dialogue jusqu'au grand forum qui aurait lieu en novembre. Pour qu'à partir de novembre, on puisse effectivement procéder à ce grand chamboulement au niveau gouvernemental. Mais malheureusement, la réalité qui découle du forum de Brazzaville a fait que nous avons été amenés à accélérer ce changement gouvernemental.
Éprouvez-vous personnellement quelques regrets ou un sentiment de soulagement quant à cette démission, Monsieur le Premier ministre ?
Ça ne peut pas être un sentiment de soulagement parce que je n'étais pas venu pour démissionner. J'ai accepté de le faire parce que Madame la Présidente me l'a demandé. Et je ne peux pas être soulagé pour ça parce que j'étais venu pour accompagner la population jusqu'aux élections.
Avez-vous des vœux pour le futur gouvernement et un message pour la République centrafricaine ?
D'abord, le vœu, c'est que je suis sûr que ça va être le cas, c'est que les centrafricains s'unissent tous autour du Premier ministre et du nouveau gouvernement, qui est surtout du Premier ministre qui va être choisi par Madame la Présidente. Je suis confiant parce que c'est une dame extrêmement sage et qui ne voit que l'intérêt de son pays, je suis certain qu'elle fera le meilleur choix. Surtout qu'elle écoutera son peuple et qu'elle fera le bon choix pour que le nouveau Premier ministre qui arrive puisse vraiment être une locomotive pour tirer le peuple centrafricain vers la réalisation de cet objectif final qui est la paix.
L'ex-Premier ministre centrafricain André Nzapayeke, joint à Bangui par Félix Yepasis Zembrou.
L'ONG Amnesty International affirme avoir en sa possession des séquences vidéo, des images et des témoignages prouvant que des crimes de guerre, notamment des exécutions extrajudiciaires et d'autres violations graves des droits humains, sont perpétrées dans le nord-est du Nigeria. Pour combattre les islamistes de Boko Haram, le gouvernement a imposé l'état d'urgence dans 3 États du nord-est du pays, y compris l'état de Borno, fief des islamistes. On écoute Steve Cockburn, responsable d'Amnesty pour l'Afrique.
Ces vidéos, nous avons corroboré avec plusieurs autres sources crédibles, y compris des témoins oculaires et des membres des forces militaires. Ça montre des crimes assez choquants, tels que des arrestations de masse dans la ville de Bama, où une trentaine de personnes étaient arrêtées, sévèrement battues, amenées aux casernes et plus tard exécutées dans la ville. Il s'agit aussi des exécutions extrajudiciaires de 16 jeunes par des militaires nigériens et des membres d'une milice civile sponsorisée par l'État qui s'appelle Civilian Joint Task Force près de la ville de Maiduguri. Les gens, en fait, ils étaient forcés de creuser leur propre tombe avant d'être égorgés. Et ils faisaient partie de 600 personnes qui étaient exécutées ce jour-là après une tentative d'invasion de la caserne à Maiduguri. Nous avons aussi une vidéo de la suite d'une attaque de Boko Haram sur la ville de Bama qui a fait une centaine de morts.
Mais qui vous a fourni ces vidéos ?
Ces vidéos, en fait, ils circulent un peu dans cette région. Il y a plusieurs civils, militaires et gendarmes que, en fait, vous voyez même dans les vidéos que les gens prennent les vidéos avec le portable. Et ces vidéos, ça circule dans la région. Et nous avons reçu ces vidéos des sources crédibles. Et nous avons corroboré ces vidéos avec les témoignages des gens qui étaient là, y compris des membres des forces armées. Évidemment, on ne peut pas nommer les personnes pour les protéger, mais nous sommes convaincus par la crédibilité des vidéos que nous avons reçues.
Vous avez dû communiquer vos préoccupations à l'armée nigériane ou encore aux autorités. Quelle a été la réaction ?
Oui, en fait, donc, nous avons diffusé ces vidéos pour exposer des pratiques répandues au nord du Nigeria. Mais aussi, ça, avant de diffuser aujourd'hui, nous avons partagé la vidéo et l'information que nous avons reçue aux autorités nigériennes. Nous avons écrit au président, au ministre de Justice, à l'Attorney General et le porte-parole pour les forces armées ont promis d'ouvrir une enquête sur le sujet pour identifier les individus et les mettre en justice. Nous voulons vraiment que cette enquête soit indépendante, c'est impartial, ça se fait immédiatement et que c'est sérieux. Nous avons donné l'information sur d'autres crimes et aussi l'échec de l'armée nigérienne avec l'enlèvement des filles à Chibok. Et en fait, ils avaient ouvert une enquête sur ces sujets, mais nié les recommandations et nié l'évidence qui était présentée. Donc nous voulons cette fois que vraiment ils prennent en sérieux cette enquête et que la justice soit faite.
Steve Cockburn, responsable d'Amnesty International pour l'Afrique.
Retour Camille Gros-Didier sur la crise de l'épidémie d'Ebola qui affecte le continent africain, en particulier l'Afrique de l'Ouest.
Oui, et vous vous rappellerez que deux missionnaires américains ont été évacués vers les États-Unis. Ils ont contracté l'Ebola quand ils soignaient des patients au Libéria. Et ces deux missionnaires ont attiré l'attention parce que, en fait, avant leur évacuation, ils ont reçu un sérum. Un sérum qui a été expédié des États-Unis avec l'autorisation expresse de leurs parents, de leur famille et de la société qui les emploie, une ONG américaine. Et ce sérum a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que on s'interroge, est-ce que c'est un remède miracle ?
Mais ce n'est pas encore approuvé par les autorités fédérales, non ?
Non, voilà, justement. Alors, les deux missionnaires vont mieux. Ils sont tous les deux hospitalisés à l'hôpital Emory, à l'université Emory d'Atlanta. Et ils vont mieux, mais on ne sait pas vraiment si c'est à cause du sérum ou à cause du fait qu'en fait, ils ont été soignés rapidement et relativement bien. Et comme vous le savez, on peut survivre à cette épidémie d'Ebola du moment qu'on est soigné rapidement. Alors, on ne sait pas si le sérum a marché. En tout cas, c'est un sérum expérimental qui n'a pas du tout été approuvé encore, même aux États-Unis. Il n'a été utilisé, il n'en existe d'ailleurs que quelques petits exemplaires, échantillons. Et il s'appelle le Z-MAP. Il est fabriqué par une société américaine qui est basée à San Diego, d'ailleurs. Et ce sérum, eh bien... Il a été donné, on pense, durant les essais aux dernières nouvelles en janvier 2014, il avait montré, pensait-on, une certaine efficacité contre le virus à Ebola. Maintenant, tout reste complètement sujet à vérification.
Et dois-je supposer que vous allez revenir là-dessus dans Carrefour Science et Santé ce week-end ?
Absolument. Alors soyez au rendez-vous ce week-end pour Carrefour Science et Santé.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Sur la Voix de l'Amérique. Et on passe tout de suite au sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. Donc, en football, le Zimbabwe n'a plus de sélectionneur Ian Gorowa en poste depuis 2013, qui n'aurait pas été payé depuis plusieurs mois, Chérubin, selon les médias, a présenté sa démission à la Fédération zimbabwéenne. Selon deux quotidiens indépendants, le Newsday et le Daily, Gorowa serait parti en raison du non-paiement de ses salaires et des mauvaises relations avec les responsables de la Fédération. Gorowa, un ancien international zimbabwéen, a été nommé sélectionneur l'an passé, en remplacement de l'Allemand Klaus-Dieter Pagels.
Alors en fait, Bagassi, Karim Benzema a prolongé son contrat au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2019.
Oui, l'attaquant international français de retour de la Coupe du Monde au Brésil était arrivé au Real en 2009 en provenance de Lyon en France. En 5 saisons avec le Real, Benzema, 26 ans, a marqué 111 buts en 235 matchs. Il a remporté une Ligue des Champions, c'était en 2014, un championnat d'Espagne en 2012 et 2 Coupes du Roi. 2011 et 2014.
Et puis le défenseur espagnol Javier Manquillo, il a été prêté à Liverpool par l'Atlético Madrid.
Oui, Liverpool n'a donné aucune précision sur la durée et le montant du transfert de Manquillo, qui est âgé de 20 ans, qui serait selon les médias de ce contrat de deux ans. Formé au Real Madrid, le défenseur a choisi de rejoindre l'Atlético en 2007 avant d'effectuer ses débuts en 2011 en Liga, le championnat espagnol. Il a fait partie des équipes d'Espagne de toutes les catégories d'âge, de moins de 16 ans au moins de 20 ans.
On enchaîne avec le tennis, alors quoi de neuf de ce côté-là?
Alors lors de la troisième journée du tournoi WTA de Montréal disputé ce mercredi en simple dames deuxième tour, l'Allemande Angelique Kerber a battu la Française Caroline Garcia 6-4, 6-1.
Merci Bagassi pour cette page sportive. Ici Washington, la voix de l'Amérique, on va enchaîner probablement avec la musique.
Oui, Camille, et notre metteur en onde, Georges Léonard Sagnot, GLS pour les intimes, a choisi ce soir de nous faire écouter Nakozongo. C'est un morceau de Lokwa Kanza de la République démocratique du Congo. On y va.
Zobina kozonga Mopembo ezali ndeli wateo Nakei kasilobina kozonga
Mayama
Mopembo ezali ndeli wateo
Totika bamboka musika Tukende koluka bomoima Tokoma mitelengano Namboka mopaya Nani ya sungayo pasi na pasi e
Nakei kasi lobi na kozonga
Atandeleo
Mopembo ezali ndeli
wateo
Nakei kasi lobi na kozonga
Boyanga bako yambanga
Mopembo ezali ndeli wateo
Kozonga mboka
Nakei kasi lobi na kozonga
Aye bayama Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie ninyokolo Bukaya mupaya pasiba ninga Atandele Tokozonga Kinshasa Pembenya bayeba Nakayo Tukuzunga mboka o, mboka babo tabiso Atandele
Nakei, kasi lobi na kozonga
Na kozonga e
Mopembo, ezali ndeli wateo Nakei, kasi lobi na kozonga
Zali seloko yangonga e
Mopembo, ezali ndeli wateo
Lobi tukuzunga mboka
e
Je pars, c'est pas la mort, nous dit la chanson Nakozonga avec Lokwa Kanza. C'est définitivement la certitude du retour à Kinshasa. Merci GLS pour ce choix. C'est la fin de cette édition, Camille Grosdidier.
À tout à l'heure.
On remercie Georges à la technique et notre ami Nelson, plutôt Santos. Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique.
Kinshasa, kasi lobi na kozonga.